soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin.
Parole de femme.
La plupart des femmes qui pratiquent des sports comme le football ou le basketball en Afrique ont commencé à jouer dans des milieux masculins. Certaines coaches entraînent même des hommes comme Soukaï Cissé, entraîneuse adjointe de l'équipe nationale féminine de football au Sénégal, qui a également entraîné des garçons dans son pays. Mama Traoré Diko, ancienne basketteuse internationale au Mali et aux États-Unis, estime quant à elle qu'il est important de se concentrer sur l'entraînement des filles en Afrique. Écoutons-les dans cet entretien qui débute avec Soukaï Cissé.
J'ai été joueuse avant d'être entraîneur. J'ai joué dans un club de la banlieue qui s'appelait Midi de Rufus. Après, j'ai eu à entraîner des garçons. J'ai commencé par là. Je suis professeure d'éducation physique au lycée franco-arabe de Kermassar. Je suis sortante du CNEPS. J'ai fait pas mal de formations avec la FIFA, la KNVB et la Fédération sénégalaise de football. Je suis aussi passée dans pas mal de clubs en tant qu'entraîneur, notamment Dakar Sacré-Cœur, qui est une filiale de l'Olympique Lyonnais, que j'ai fait monter en première division. J'ai été vice-championne avec l'évêque de la Médina en première division. L'année passée, j'ai fait la double coupe championnat avec l'Union sportive des Parcelles de Sénie.
Soukaï Cissé, on a bien retenu que vous avez fait monter une équipe en première division. Excellent travail. Mama Traoré, vous êtes championne d'Afrique. Vous avez fait deux coupes du monde, notamment. Vous entraînez également. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où vous venez?
Effectivement, j'ai joué avec l'équipe nationale du Mali féminine. J'ai commencé dans une centre de référence de Bamako où il n'y avait pas de moyens de savoir si on pouvait aller à l'équipe nationale. Mais avec plus de dédication, je me suis retrouvée là-bas. Donc, on a été championne d'Afrique en 2006 à Mozambique. Et après ça, j'ai pu participer à deux Coupes du Monde, notamment en Russie et aussi en Tchécoslovaquie. Donc, après là-bas, je suis venue aux États-Unis. J'ai joué avec Temple University et aussi avec Burlington County College. Là-bas, j'ai été meilleure joueuse de l'année dans toute New Jersey et aussi de la NGCA, de la conférence. Donc, à travers ça aussi, j'ai été MVP du club. Donc, après ma carrière de basket, je suis retournée là-bas. Donc, j'étais un coach dans l'équipe de Burlington County College pendant plus de 6 ans.
Entraîneur adjointe de l'équipe nationale féminine du Sénégal. Alors vous, qu'est-ce que vous constatez notamment dans les performances des joueuses sénégalaises et comment vous les aidez au niveau de l'entraînement?
C'est juste les motiver davantage, leur faire comprendre qu'il y a de la place pour elles dans ce milieu du football. On a été en regroupement pendant très longtemps, ce qui ne se faisait pas parce que dans les clubs, l'entraînement, ce n'est pas trop ça. En équipe nationale, on a la chance d'avoir les filles à nos côtés. Elles sont là, elles s'entraînent matin et soir, elles récupèrent, tu les surveilles. Leur faire comprendre qu'il nous faut une place dans le continent africain. Il faut que le football féminin sénégalais se réveille. Il faut qu'on se batte pour avoir une place. Il faut qu'on nous cite parmi les meilleures équipes de l'Afrique. Il y a le talent dans les filles. Bah, le problème, c'était avec les parents avant, mais maintenant, comme l'équipe nationale commence à faire des résultats, à gagner des matchs, à se qualifier dans les championnats d'Afrique, on n'a plus ce problème.
Merci Soukaï Cissé. Mama Traoré, au niveau de la discipline en milieu sportif, alors vous avez eu depuis très jeune, je crois que vous avez commencé à 13 ans, une discipline extraordinaire. Qu'est-ce que vous faisiez exactement?
C'est vrai Nathalie, ça demande vraiment une discipline. Je me réveillais à 4h du matin pour être sur le terrain à 5h du matin avec un ami qui m'aidait. Donc on allait là-bas et je shootais le basketball. Parce que j'avais demandé à un professionnel qui jouait au stade malien. Donc, je voulais savoir comment il a fait pour être à ce niveau. Donc c'est là qu'il m'a dit que lui-même, il s'entraînait beaucoup. Donc il faut vraiment la dédication. Tu dois toujours t'entraîner plus que ce qu'on fait sur le terrain. Donc c'est ce que je faisais à 5h du matin. Donc on commençait à shooter 100 à 1000 bonnes par jour. Et on travaillait sur les mouvements aussi pour pouvoir y arriver.
Un très beau programme en effet, Mama Traoré. Donc sous quel Cissé, quel genre de vie vous menez pour être bien en forme?
Tout le monde sait que pour être dans le haut niveau, il faut une hygiène de vie saine. Il y a une heure pour dormir, il y a une heure pour se réveiller, une heure pour s'entraîner. Les repas à suivre, il faut un diététicien, il faut être organisé. C'est juste une organisation de sa carrière personnelle. Quoi. C'est quelque chose que chaque sportif doit s'imposer.
Voilà, discipline personnelle, un sous-caississé. Mama Traoré, vous-même, au niveau du mode de vie, quand on est sportif de haut niveau, combien d'heures il faut dormir la nuit?
Il faut se coucher vers 20 heures pour pouvoir se réveiller tôt parce qu'on a aussi notre responsabilité pour aller à l'école. Donc, faut pas oublier ça. Si vous voulez mener une vie de sportif, il faut laisser les autres de côté et puis se concentrer sur la nourriture, comme ma sœur l'a dit, et s'occuper de son corps. C'est justement ce que je faisais aussi. Et nous, on a eu la chance de croiser un docteur international qui nous a dit ça, même quand j'étais au Mali. Donc, à partir de là-bas, c'est ma maman qui s'occupait de ça. Donc, elle se réveillait et me donnait les nourritures qu'on devait consommer pour pouvoir être en forme.
Au niveau de l'entraînement, parce que vous, en fait, vous avez commencé avec les hommes. Vous venez d'une famille, il me semble, de 6 garçons, 6 frères. Votre papa était entraîneur. Finalement, qu'est-ce que cela vous a apporté d'être forcément au début dans le milieu des hommes?
J'ai commencé dans le milieu des hommes avec le championnat national populaire ici, communément appelé Navetan. C'est le championnat de quartier. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a forgé. Ça m'a permis d'être rigoureuse dans mon travail. Ça m'a permis d'être pragmatique parce que avec les garçons, il faut anticiper sur chaque chose. Parce que si tu te laisses faire, ils te diront que c'est une fille. Bon, on va faire ce qu'on veut, ce genre de trucs. Ça m'a permis d'avoir un caractère. Quand je veux que tu fasses ça, je te le dis une fois, tu le fais et tu ne ripostes pas. Ça m'a permis de grandir en quelque sorte.
Vous-même, Mama Traoré, vous entraînez essentiellement des filles ou vous entraînez aussi des garçons?
J'entraînais les filles du Community College. Je me concentrais sur mes sœurs parce que je sais qu'il y a beaucoup de challenges chez nous pour pouvoir continuer avec le sport et aller au haut niveau. Donc je voulais voir comment je peux être une leader dans ce secteur et puis aider mes sœurs.
C'est la vie de famille, les enfants, les grossesses. Je ne sais pas si vous êtes maman ou si vous avez l'intention de l'être, mais dans tous les cas, la question est posée à toutes les deux. La femme, il y a un moment où elle est en période de maternité. Comment on gère ça?
Moi, je n'ai pas encore d'enfant, mais je souhaite l'avoir. Donc, je n'ai pas encore eu ce genre de problème. Mais allier vie de famille et vie professionnelle d'entraîneur, j'ai pas aussi ce problème parce que mon mari est dans le milieu. Il me soutient beaucoup, il m'aide beaucoup. Par contre, j'ai des joueuses qui sont mariées et qui ont des enfants et c'est très difficile de les faire revenir dans le terrain. C'est rare que tu les convainques à revenir reprendre le sport, reprendre la compétition. C'est mentalement qu'on essaie de travailler avec elles pour qu'elles, après leur accouchement, qu'elles reviennent essayer de reprendre leur passion, quoi, si je peux dire ça.
Okay, Cissé, merci beaucoup pour cette précision. Mama Traoré, vous avez entendu finalement, est-ce qu'on a le même problème au niveau du basketball? Vous-même, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pensez qu'il y a le même problème que la jeune femme qui peut avoir une carrière extraordinaire en sport, mais finalement elle arrête après la grossesse?
Bon, moi je pense que tout commence par soi-même. Parce que avant, on avait cette mentalité que quand tu es marié et tu as un enfant, ce n'est plus possible de jouer au basket. Mais heureusement, j'ai pu m'inspirer d'une joueuse du Djoliba, notre capitaine Fatoumata Dia. Elle a accouché d'une fille et en même temps, elle joue avec l'équipe nationale. Donc, j'ai dit que je peux faire la même chose. Et dans ce sens-là, il faut avoir un mari qui te soutient. Et avec ça, il faut juste s'entraîner. C'est pas du tout facile de revenir en shape, mais en tout cas, quand tu as quelqu'un qui te soutient et si tu as la volonté aussi, c'est vraiment possible de le faire. Car moi, j'ai 3 enfants en ce moment. Je suis toujours dans le milieu.
Au niveau du leadership du sport féminin, les moyens surtout, hein, on parle beaucoup hein, dans le monde entier, vous savez que même les grandes équipes nationales féminines hein, réclament un meilleur salaire. Et puis on pourrait rebondir aussi sur les championnats féminins. En tout cas, est-ce que nous avons les moyens que nous voulons en Afrique au niveau du football féminin?
Il n'y en a pas, franchement, pour dire la vérité. Il n'y a pas tous ces moyens-là, parce qu'il n'y a pas les sponsors qu'il faut pour les clubs ou pour les ligues de football féminin ici en Afrique. Il n'y a pas la presse qui est là pour médiatiser les événements, les matchs, les compétitions, pour que les sponsors puissent venir. C'est les clubs qui se débrouillent pour, je ne peux pas dire salariés, mais pour indemniser les joueurs, pour les faire rester. Bah, ici au Sénégal, il y a 2 ou 3 clubs qui donnent des indemnisations, le reste ne leur donne pas. C'est pour cela que chaque saison, on voit les joueuses migrer en masse dans un club qui a les moyens. L'année qui suit, c'est l'autre club qui a le moyen. Toutes les joueuses migrent là-bas. Il n'y a pas les moyens qu'il faut parce que les sponsors ne sont pas là, les médias ne sont pas là. Il n'y a pas une réflexion même pour trouver les moyens pour essayer de donner des salaires aux joueuses.
Merci beaucoup Soukay Cissé. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. On remarque que le sport féminin est beaucoup moins médiatisé. Mama Traoré, comment ça se passe un petit peu en Afrique au niveau du basketball? Est-ce que les moyens sont là aussi pour les femmes ou pas?
Je pense qu'en Afrique, on a toujours besoin des moyens parce que avec le peu qu'on a là-bas, les filles, elles se débrouillent très bien. Elles s'entraînent et puis elles ont la volonté. Donc je pense que si la fédération met un peu de moyens sur place pour elles, ça ira. Sinon, aux États-Unis ici, notre chance est que tout est pris en charge, surtout à Temple University. Donc moi, j'avais une bourse qui payait tout, la maison, l'école et puis le manger. Donc je n'avais rien à faire, je devais juste aller m'entraîner et c'est bon. Donc je pense qu'ils doivent regarder cet aspect. Bien vrai que les jeunes se débrouillent vraiment maintenant, mais on a toujours besoin de soutien.
C'était l'ancienne basketteuse internationale malienne Mama Traoré Diko et l'entraîneuse de football sénégalaise Soukay Cissé.
Si je le pouvais.
500 000 étudiants réfugiés inscrits dans les meilleures universités à travers le monde d'ici 2030. C'est l'ambition de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à travers un programme d'éducation. Au Cameroun, certains étudiants réfugiés sont déjà comptés parmi les bénéficiaires de ce programme, rapporte notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jumtap.
Lors des journées portes ouvertes au siège de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Yaoundé, le stand dédié à l'éducation des réfugiés a été l'un des points d'attraction. De nombreux réfugiés éprouvent parfois des difficultés à poursuivre leurs études universitaires dans le pays d'accueil. Abou Zainabou, une jeune centrafricaine réfugiée au Cameroun depuis 2014.
Ma famille était étudiante. Elle faisait la première année là-bas en finance, bah avant de venir ici au Cameroun. Et quand je suis arrivée ici au Cameroun, je me suis inscrite à soi en première année. Et la suite, alors, je n'ai pas pu terminer. Donc, j'ai fait aussi la comptabilité.
2 programmes de bourse permettent aux réfugiés de poursuivre leurs études universitaires. Pascal Blaise Makondo, assistant chargé à l'éducation HCR à Yaoundé.
Le programme de bourse d'AFI, c'est un programme qui est financé essentiellement par le gouvernement allemand et qui permet de financer les études supérieures aux réfugiés qui sont installés dans le pays d'asile. Pour le Cameroun, on a chaque année environ 50 places qui sont offertes en fonction des budgets disponibles aux jeunes réfugiés afin qu'ils puissent continuer les études. L'autre programme, c'est les voies complémentaires en éducation. Nous facilitons la scolarisation dans les grandes universités européennes aux réfugiés qui sont installés au Cameroun.
17 réfugiés ayant choisi le Cameroun comme premier pays d'asile sont actuellement inscrits au cycle master en Italie et en France grâce au programme ICOR, University Corridors for Refugees et UNIVER qui ouvre un couloir universitaire au master pour des réfugiés. Mais d'autres opportunités d'études supérieures existent localement. Pascal Blaise Makondo, assistant chargé à l'éducation à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Yaoundé.
L'enseignement supérieur connecté. Ce programme donc leur permet de suivre des masters sur place au Cameroun. Nous avons actuellement 5 qui suivent les masters et qui vont soutenir bientôt.
Le ministre de l'Enseignement supérieur a instruit tous les recteurs d'université d'État de faciliter les inscriptions aux réfugiés. Ils payent le même montant des droits universitaires que les étudiants camerounais. Oliver Bier, représentant résident du HCR au Cameroun.
L'autonomisation, c'est s'affranchir de l'aide humanitaire. On peut vous assister pour sauver votre vie lorsque vous avez tout perdu, mais après on fait quoi? Est-ce que toute votre vie vous allez là tendre la main et demander l'assistance? Ça, ce n'est pas une vie digne. Une vie digne, c'est de retrouver vos marques, retrouver votre santé, retrouver l'accès aux droits qui étaient les vôtres avant que vous ne quittiez votre pays ou avant que vous ne vous déplaciez, et pouvoir nourrir votre famille, vivre comme un citoyen normal.
Le gouvernement affirme avoir dépensé 50 milliards de francs CFA entre 2016 et 2022 pour leur protection et la recherche de solutions pour une vie dans la dignité. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
En Côte d'Ivoire, la Société de mathématiques et des ONG mène des campagnes de sensibilisation en collaboration avec la direction de la vie scolaire pour encourager les filles des lycées et collèges à s'orienter vers les filières scientifiques et technologiques. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Delphine Bowis.
Et la Marina Conan, présidente de l'ONG KS Africa, professeure à la faculté de mathématiques et d'informatique à l'université de Cocody, veut inspirer le changement à travers la caravane plus de femmes dans les matières scientifiques.
Par cette caravane, nous venons déjà déconstruire la première idée que les enfants ont, que être femme et faire les sciences, c'est pas possible. Et nous venons donc avec des modèles de femmes qui sont soit de la science, de la technologie, de l'ingénierie, qui viennent partager leur expérience.
Fatime Cissé, première femme diplômée en intelligence artificielle de Côte d'Ivoire, responsable de l'ONG HIS, qualifie les matières STEAM, entendez sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, des métiers d'avenir. Des femmes de science ont franchi le pas, partagent leurs expériences et sensibilisent les jeunes filles. Professeur Fatou Traoré, docteur en mathématiques appliquées à l'université de Cocody.
Au collège, j'ai constaté qu'on n'avait pas de prof de maths femmes. Et déjà, ça a attiré mon attention. Comme j'arrivais à faire mes exercices, même avoir de fortes notes par rapport aux garçons qui étaient dans la classe, je me suis dit que je pouvais avoir un grand diplôme en mathématiques. J'ai continué à aller à l'université, c'était la même chose. Je n'avais pas de prof de maths femmes, sauf en maîtrise. Quand je suis arrivée, j'ai eu le professeur Guidi Mwanja. Je me suis dit, si je pouvais avoir le doctorat aussi, pour être aussi un prof de maths à l'université comme elle. Par la grâce de Dieu, j'ai pu soutenir, j'ai eu mon doctorat en mathématiques. Concernant les jeunes filles, je pense qu'elles ne doivent pas avoir peur des sciences. Elles doivent être courageuses, se dire qu'elles peuvent réussir comme ces hommes dans ces différentes filières.
Femme des sciences, professeure Joséphine Guidi Mwanja, première femme africaine agrégée de mathématiques et docteur d'état en sciences mathématiques. Les impressions des jeunes filles sensibilisées.
Avec cette cérémonie, je vais essayer de faire plus d'efforts. Je vais appliquer tous les conseils donnés pour pouvoir obtenir mon bac avec une mention.
La Société mathématique de Côte d'Ivoire a initié le concours Miss Mathématiques Ange Roxane Miesson, 15 ans, en classe de terminale C au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, a remporté le titre de Miss Mathématiques 2022.
C'était un défi pour moi de pouvoir comprendre une matière qui est redoutée de tous. Cela m'a beaucoup motivée.
Le professeur Ibrahim Akone de la commission communication de la Société mathématique de Côte d'Ivoire.
La femme donne l'enseignement déjà dans la maison. Donc si elle arrive à acquérir les notions scientifiques, elle peut transmettre facilement à plus de monde que les hommes.
Ces exemples de femmes diplômées de mathématiques et de sciences serviront d'inspiration et de motivation aux jeunes filles qui pourront dire « Yes, we can ». Delphine Bobby, Abidjan, VOA, Afrique.
Bénin, le gouvernement envisage la mise en place d'un programme de maîtrise des naissances pour faire face à la poussée démographique trop élevée. Voici un reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé, qui a recueilli des réactions sur cette question.
Le sujet est présent dans toutes les conversations depuis que le chef de l'État béninois l'a évoqué sur une chaîne internationale. Patrice Talon avait déclaré en mars dernier qu'il faut contrôler les naissances, trouver les moyens d'inciter à la limitation des naissances. Pour lui, les présidents africains doivent agir pour limiter cette croissance de la démographie afin de contribuer au bien-être des concitoyens.
Nous sommes confrontés aujourd'hui à un drame. Le taux de croissance de la démographie est trop élevé et en décalage avec notre capacité à investir dans l'infrastructure, d'éducation, de santé, la création d'emplois. Donc il faut impérativement contrôler ce taux de progression de la démographie, donc contrôler les naissances. Et il faut trouver les moyens d'inciter au contrôle des naissances et même de trouver des moyens coercitifs un peu pour que l'explosion qu'on observe, le taux qu'on observe ne se perdure pas. Sinon, l'Afrique se portera très mal.
La population béninoise est estimée à 12 614 058 habitants selon le dernier recensement. Pour certains, le Bénin n'est pas encore au stade dont parle le président au point de nécessité une limitation des naissances.
Moi, je suis contre le fait que le président a dit qu'on doit limiter le nombre de naissances par couple.
Moi, je ne suis pas pour cette option parce que les populations du Bénin ne constituent pas encore une main forte pour faire développer à elle seule le pays.
Nous continuons d'utiliser fortement les hommes pour le développement de nos activités. Par conséquent, le nombre d'enfants fait que l'exploitation de ton demain est assujetti au nombre d'enfants que tu as.
Mais pour d'autres, il est temps de promouvoir la procréation responsable et le président Patrice Talon fait bien de mettre le doigt sur un véritable problème de développement.
Et moi, je pense que cette mesure est vraiment la bienvenue parce que, qu'on veuille ou pas, un enfant implique des responsabilités.
Un enfant, commencer la maternelle jusqu'à aller en terminale, tu vois le coup, il faut des visiteurs, il faut des filles, il faut des sages, à l'université également. Puis tout le monde peut comprendre ce qui se passe actuellement. On peut limiter les gens.
Bientôt des assises sur le sujet. Devant la polémique, le gouvernement, par le biais de son porte-parole, a réagi. Selon Wilfried Léandre Ngwidji, il s'agit de procréation responsable. Pour lui, le gouvernement convoque des assises nationales pour que toutes les forces vives, toutes les composantes de la société se retrouvent et discutent d'une préoccupation majeure pour le Bénin. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête.